Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art.
Les rencontres d'Edmond Morel. Héroux, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion notamment de la publication du livre que Jean Marchetti publie à la Pierre d'Alain, un livre dans lequel, d'une certaine manière, on vous découvre à travers les textes et à travers un choix de vos œuvres. Alors, en exergue de ce livre, Christian d'Autremont a cette phrase « J'ai l'air de fragmenter comme cela, en réalité, j'unis ». Est-ce qu'on pourrait appliquer cette phrase de partir des fragments à votre art ?
Absolument. Le texte, ça c'est des blocs-notes. Depuis 30-40 ans, quand je travaille, c'est comme une mousse qui passe et se marque une phrase. Se marque, il y a des milliers de phrases, des centaines de phrases. Et finalement, M. Marchetti a eu l'idée de faire un livre avec ça. Il a relu le texte et c'est devenu un texte finalement. Ces blocs-notes sont devenus un texte. Le titre que je donnais, c'est non est vrai, vero e ben trovato. C'est un texte incroyable de Leonardo da Vinci qui veut dire c'est non est vrai, c'est très bien trouvé. Mmh. Ça me va très bien parce que dans mes tableaux, il y a beaucoup de choses qui se trouvent ailleurs.
Alors quand on voit vos collages, des plus petits aux plus grands, on s'interroge sur la manière de procéder. Est-ce qu'on pourrait entrer dans votre atelier ? Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous êtes devant une toile vierge et comment vous savez que vous allez disposer collages des
éléments ? Il y a une accumulation énorme. C'est dans mon atelier une cinquantaine de tiroirs avec les sujets différents qui se collisionnent. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, sur la collection, surtout dans mes voyages, dit qu'il y a un tiroir avec les couchers du soleil, troisième avec la fin de la journée, le matin, et ça continue. Il y a les dictateurs, il y a un tiroir avec le pire, qui s'appelle l'enfer, hein, comme là dans la Bibliothèque de France, et quand je commence à m'intéresser à un projet, je tiens beaucoup à clouer les événements importants du siècle, de laisser quelque chose derrière. Peut-être tu le sais que mes peintres favoris, c'est pas la nouvelle vague, c'est plutôt Rubens, Jordanes et Tintoret, tu vois. Je me sens beaucoup plus proche d'eux que de l'avant-garde aujourd'hui, même si je le suis bien, et surtout, je m'intéresse beaucoup maintenant à ce qu'on appelle le street art, les gens qui travaillent gratuitement dans la rue, et je trouve que c'est vraiment des anges. Et alors, mon travail, c'est très compliqué, ça commence beaucoup de fois avec les collages, et les retouches des collages, et c'est normalement, c'est projeté sur la toile, projeté avec un projecteur épiscope maintenant, grand épiscope, et il y a beaucoup de liberté dans le dessin. Quand je continue à travailler sur la toile, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de changements qui se passent.
Mais est-ce qu'au départ, vous voyez déjà l'ensemble, ou est-ce qu'il se construit?
Non, il est construit peu à peu, oui. Je découvre quelquefois les compositions inattendues complètement. Il faut quand même s'amuser un peu dans ce métier, parce que on passe 12 heures par jour tout seul dans l'atelier, et je n'écoute plus la musique classique ou la musique pop comme avant, je travaille en silence total et je ne supporte personne dans l'atelier. Alors la journée est très longue, il faut dire que quand je travaille, la journée passe en 15 minutes et la semaine en une heure.
Vous dites dans le livre, c'est une de vos notes, mais peut-être qu'elle n'est plus d'actualité, que parfois vous demandez à ce qu'on vous lise un livre pendant que vous travaillez.
Oui, ça a commencé avec une Anglaise de Wales, une fille formidable qui venait me nettoyer l'atelier une fois par semaine. Elle devait travailler 4 heures, elle terminait en 2 heures. Alors je donnais des livres à lire pendant que je travaillais. Elle a pris plaisir aussi parce qu'elle ne connaissait pas les textes. Et je aime bien que... Oui, mais c'est... Là, il y a quelqu'un qui t'a dit, il faut que je le remercie après, il faut engager une conversation. Alors, je préfère maintenant, je suis en silence total.
Alors, vous avez parlé de vos fameux tiroirs dans lesquels vous rangez des images. Est-ce que vous les rangez par thème, comme vous venez de citer,
exact.
Ou est-ce que vous les rangez aussi par perspective, par grandeur
Non, par thème. Ça veut dire que beaucoup de fois que je cherche une beau... fin de la journée, je tombe sur une journée pluvieuse et ça va mieux. Hein. Il y a des surprises partout. Hein. C'est ça. La délire, c'est une surprise continuelle.
Alors, vous avez évoqué les peintres de la Renaissance et vous racontez dans le livre qu'eux, ils devaient voyager, faire des...
C'est sur leur image, hein, comme Rubens qui a ramené de Rome beaucoup de ses esquisses magnifiques et ça, c'était pour la vie. Ça, le reste était pure fantaisie.
Mais vous dites que pour vous, toutes les images existent déjà.
Voilà, toutes les images existent. Je sais que je risque des problèmes avec le droit d'auteur. Hein. Ça m'est arrivé. Beaucoup de fois, ça s'est reçu par paiement, ouais. Beaucoup de fois. Et quelquefois, ça va jusqu'aux avocats, mais ça ne m'est pas arrivé souvent. Se prend le risque quand même. Hein.
Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que vous recréez finalement quelque chose.
Se recréer et se le met en situation complètement différente que c'était avant. Et normalement, je trouve que c'est très positif. Moi, ça m'arrive rarement que je vois une image qui se inventait, disons, et je suis très content, très très content.
Alors, vous êtes né en Islande. J'aimerais que vous nous disiez votre nom en islandais pour entendre la musique de l'islandais.
C'est Guðmundur Guðmundsson. C'est un nom extrêmement difficile à porter parce que ça veut dire la main de Dieu, le fils de main de Dieu. C'est pour ça que j'ai arrêté. Non, il est trop long pour signer sur le tableau. Je signe mes tableaux normalement derrière, mes aquarelles derrière. Et c'est un nom trop sérieux. Alors, j'ai pris ce petit nom qui avant était Ferro. C'est un procès à Paris avec un Argentinien qui s'appelait Ferro. Et il y avait une loi de Vichy qui est restée, qui interdisait les étrangers de porter le nom d'artiste. C'est surtout fait contre les journalistes juifs qui sont ces deux noms en français, tu vois, dans la guerre. Alors, cette loi est restée et c'est l'avocat de M. Le Pen qui est l'avocat de mon adversaire, qui est lui qui a suggéré que j'enlève le F. Et ça, c'était parfait. Parce que Ferro, en islandais, en deux mots, ça veut dire maintenant le calme part. Ro, maintenant, ça veut dire maintenant c'est calme. Ro, voilà.
Ah, donc ça, même en islandais, alors, ça veut dire quelque chose.
Exact.
Est-ce que vous avez le sentiment que ces racines islandaises ont quelque part encore leur trace dans votre travail d'artiste aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, depuis que vous créez.
C'est une enfance très heureuse, sans père. Hein. J'ai vu mon père la première fois quand j'avais 17 ans. J'ai vécu dans une magnifique ferme avec des grandes rivières, la lave tout autour, des volcans derrière, la mer en face. Et ça m'a beaucoup influencé. Hein. Avec les animaux, beaucoup d'animaux de 800 moutons, 20 chevaux, tout ça, c'était magnifique.
Et en quoi est-ce que ça vous a influencé?
Ça m'a donné de l'énergie, hein. Esprit jusqu'à 80 ans.
Est-ce qu'on peut imaginer que le calme que l'on imagine, la sérénité que l'on imagine de ces moments-là, est ce dont vous avez besoin dans votre atelier aujourd'hui ou pendant que vous travaillez à ce travail de minutieux?
C'est intéressant que tu te dis. Ça veut dire que je crois que ça me permet de rester seul et supporter très bien de le silence. Mmh. Hein.
Alors vous avez dit quelque chose qui m'a fort intrigué puisqu'on est en radio. Vous dites que vous avez parfois l'impression, en faisant vos collages, que vous faites de la radio, que c'est un peu comme la radio qu'on écoute. Est-ce que vous imaginez qu'on pourrait créer une bande sonore sur vos collages et sur vos peintures?
On peut. Il y a des films qui ont été faits, des poèmes qui ont été faits à partir de mes tableaux. Et je l'ai même fait moi-même dans les années 60 à Paris. J'avais fait des poèmes mécaniques. Oui. mécanique, parce que je travaille avec toute une période mécanique maintenant qui est exposée à Copenhague, dans le musée à Copenhague. Il y a une grande expo avec moi, ça s'appelle Aéromécanique. Mm-hmm. Pas l'orange mécanique, mais aéromécanique, voilà. Et là, il y a eu des poèmes qui ont été faits un peu comme les collages, avec les phrases qui sont prises à droite et à gauche, comme toujours, hein.
Hein? Comme les surréalistes que vous avez fréquentés.
Exact. Oui, j'ai eu beaucoup de chance quand je suis arrivé à Paris. En 58, j'ai rencontré tous les surréalistes grâce à mon ami Jean-Jacques Lebel et son père Robert. Je connais tous les surréalistes tout de suite. Et c'est quand même, c'était formidable parce que c'est quand même le mouvement le plus libre et le plus extraordinaire de tous les mouvements. Parce que chaque artiste est complètement différent un de l'autre. Et ça veut dire quand je suis arrivé à Paris en 58, il y avait l'école de Paris qui dominait complètement. Il y avait qui, les surréalistes et l'école de Paris. Et je me suis approché d'eux, j'ai même beaucoup de chance avec mon ami Marta, qui m'a fait travailler, le peintre, grand peintre sicilien, qui m'a fait travailler avec lui. On a fait des dessins ensemble tous les vendredis soirs, pendant des heures. Dès que lui faisait sa construction, moi la mienne, et après on s'enseignait, mais ses caractères dans ma construction, et les miennes dans les siennes.
Donc il y a des œuvres de Marta qui,
ouais,
dans lesquelles,
ah oui, ensemble, oui, qui ont travaillé ensemble, oui.
Et quelle est la raison pour laquelle vous êtes allé à Paris plutôt que d'aller à Copenhague ou à Berlin?
Il n'y avait rien. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à New York. Il y avait rien. Il y avait deux ou trois artistes américains, mais complètement méconnus à l'époque. Et à Tokyo, il n'y avait rien. Il n'y avait que Paris. Que Paris. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de rencontrer Lebel, qui est devenu mon grand ami, et douce mon grand ami, de rencontrer lui, qui m'a fait venir à Paris.
Mais, quelle a été, selon vous, l'influence que les surréalistes ont eue sur votre travail pictural et sur votre travail littéraire? Est-ce que c'est un
élément? Je pense que sans les surréalistes, je serais devenu un peintre académique. Mm. Hein? Et les surréalistes m'ont donné l'idée qu'on peut aller, plus loin. Hein? Peut-être capter un peu de fantaisie.
Ouais. Alors aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, à une ère où les images sont encore plus accessibles qu'elles ne l'ont jamais été. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire plutôt de la méfiance ou de l'enthousiasme?
Techniquement, ça m'a donné un enthousiasme énorme. Mais c'est pas un ordinateur, c'est pas l'Internet, c'est moi. Jamais dans ma vie, hein. Tout passe par les images qui sont chez moi ou qui viennent de l'atelier. Et tout passe par mes mains. Il n'y a pas de mécanique possible. Hein.
Tout vient de vos tiroirs.
Tout vient de mes tiroirs. Et beaucoup de mes amis qui m'envoient des sujets. Quelquefois, quand le grand tableau sur le foodscape, sur la nourriture, il y avait l'ami américain m'a envoyé beaucoup d'images. Tu vois, ça continue maintenant. C'est beaucoup d'images qui viennent de la Palestine quand je fais un tableau qu'à voir avec eux, et ils sont au courant, ils m'envoient des images, tu vois, c'est formidable.
Racontez-nous un peu le foodscape, c'est un immense panorama consacré à la nourriture.
Avec tout ce qu'on a mangé, surtout en Amérique dans les années 60. Hein. Mm-hmm. Je suis arrivé à New York et je n'avais jamais vu un supermarché avant, bien sûr. Et se acheter, se manger les choses, c'était pas très bon, toujours, hein. Seulement pour voir l'image de la couverture de la publicité.
Voilà. Ah oui, d'accord. Et alors, ma dernière question portera sur votre activité aujourd'hui. Vous continuez à accumuler des images. Quelles sont les images qui maintenant vous frappent? Parce que vous avez utilisé des images de magazines russes comme Crocodile, enfin soviétiques, comme Crocodile, chinois.
Chinois, surtout les Chinois. Oui, il y a beaucoup d'une série sur Mao Zedong. Mm. Vous savez bien qu'elle a fait un voyage dans sa vie quand elle avait 29 ans jusqu'à Moscou. Et il n'avait pas un sou, on l'a mis dans une librairie à travailler, qu'il pouvait avoir à manger. Et les amis sont allés à la Chine. Normalement, j'ai eu l'idée, je trouve ces images tellement plus beaux que les images russes, qui sont très staliniennes, disons. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus doux, ils sont beaucoup plus heureux, les gens, et surtout les enfants. Et c'est une idée de le faire partir de la Chine avec sa famille. Hein? Alors, il a fait le tour du monde avec moi. Ces tableaux, je voulais les exposer en Chine, ça fait une dizaine d'années. Ils sont interdits aux dernières minutes. C'est un monsieur qui m'avait invité, interdit par le ministère de la Culture chinois. Et À l'époque, c'était assez étonnant parce que, si vous voulez, tous les tableaux sont partis. Ça me reste deux tableaux seulement de cette série. Et il se fait des copies sur toile. On appelle ça le... deuxième, c'est électronique, c'est inkjet, on appelle ça l'inkjet, non? Ouais, voilà. Ouais. Qui sont exactement comme les tableaux, exactement comme les tableaux. Et je trouve ça très bien d'envoyer les Chinois des copies, comme eux, ils copient tout, mais je l'envoie des copies. Et ils sont mal compris, ils sont interdits, ils sont obligés de changer les tableaux dernière minute.
Héros, je vous remercie pour cette rencontre. Et puis, j'invite tous ceux qui nous écoutent à tout de suite se plonger dans le livre publié par Jean Marchetti à la Pierre d'Alain, ou à venir voir vos œuvres exposées à la Huitokiana ici à Bruxelles. Héros, je vous remercie pour cette interview.
Merci, c'est un très bel accrochage. Je suis très fier et très content de l'accrochage. C'est vraiment magnifique.
Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'accrochage? Alors, il y a des choses qui vous ont particulièrement touché, les céramiques ou...
C'est la quantité des images, ouais, qui sont sur les murs et ils ne se confrontent pas trop. Chacun reste pour soi.
Donc, c'est une situation idéale. L'artiste est heureux de l'accrochage de ses œuvres. Merci, Héros.
Exact. Au revoir. Merci. Au revoir.
L'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art.
Les rencontres d'Edmond Morel.